sont en merde, hein.
Il paraît que la TRS de votre salon prise, il soit à l'hôpital. Moi, je serai mais qui crève, qui crève, qui crève. Je leur donnerai pas un soin. Qui crève sur place. Et on ira les finir. Tu peux crever, ce monde de Sylvante encore, pour te finir. Et je boirai encore le champagne. Je te casserai encore la bouteille sur la gueule une fois que tu seras crevé. Après pourriture,
ordure putain, des rempuissants, des chouettes. Puis là, on dirait pas là, mais là, dire qu'on casse des bières là-bas.
Vous étiez pas si malin en Algérie, hein. Vous étiez pas si malin là, vous les aviez comme ça là, hein. Enfin, ceux qui y ont été là.
Nous
n'avons voulu en Algérie, si vous voulez, de 56 à 60, hein. Eh ben, vous aurez descendu, les gars.
Allez,
hein,
attention, Kikette. Mais Smith a voulu la merde. Mais il l'aura, Smith. Il a intérêt de faire sa valise. Hein.
Smith noir. Normalement, c'est défendu d'être assis dans votre machine, là. Mais vous êtes trop feignants. Vous avez des képis. C'est pour mesurer les cacahuètes.
Bande d'enculés, là.
Si un dieu existe, hein, vous irez pas au ciel, vous irez chez le diable, de la 7e chaudière, là-bas, cramé, comme, hein, comme des pourritures que vous êtes.
Espion, parce que je t'avais à présent, je te casserai la gueule.
Et là, un bouclier.
Prends pas ton gosse, c'est tes petits copains derrière toi. Un bouclier, tu veux rentrer pour la caserne, enfoiré.
C'est dommage qu'on sait pas vos adresses personnelles. Je sais pas t'en dire, il est en fonction de chez vous là-bas.
Salut,
si vous oubliez, tiens, hop là, la part d'un communiste, hein.
Vive la France.
Oh bah, vive la France avec ça, nous.
Oh, chiotte Pompidou.
Ça, c'est la rime d'après le crapaud.
Oh, chiotte Pompidou.
Qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, a duré 128 jours, 128 jours pendant lesquels INF2 vous a tenu au courant de chaque péripétie.
Fred Lip, sa conception de l'affaire, exclusif INF2.
Oh, je pense que tout ça aurait dû être fait dans le dernier semestre 70. J'ai donné ma démission de Lip le 15 décembre 72. On pouvait le faire en 70, comme je l'ai proposé, comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit, puis en 71. Et quand je suis parti en 72, c'est que j'ai compris que rien ne se referait. Et alors, vous avez vu ce qui s'est passé. Je me reproche, et on peut me reprocher, d'avoir joué une mauvaise carte. La carte de la confiance totale et absolue vis-à-vis du personnel, en lui demandant, avec des salaires très élevés, des avantages exceptionnels, qui faisaient gronder dans la région, d'apporter tout, le travail, la qualité et l'amour pour la maison, pour faire de cette maison quelque chose d'autre. Peut-être un mauvais financier. Pas un mauvais administrateur, mais un mauvais gestionnaire. Je n'ai pas pensé à ce qu'on doit faire lorsqu'on est un industriel, faire de l'argent d'abord. D'ailleurs, quand on fait de l'argent, malgré que ça ne plaise pas aux syndicats et aux populations des travailleurs, c'est la meilleure garantie pour pouvoir les payer convenablement et tout le temps. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
En fait, la firme Lip connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années. Le 17 avril, démission du directeur général, le tribunal de commerce de Besançon nomme deux administrateurs provisoires. Mais le personnel refuse catégoriquement tout licenciement ainsi que le démantèlement de l'entreprise. Apprenant que les salaires ne sont plus versés, le personnel occupe l'usine, cinq directeurs sont séquestrés puis relâchés le lendemain. Afin d'assurer un salaire de survie, le personnel fabrique des montres et les vend. Les administrateurs provisoires déposent le bilan et réclament la mise sous séquestre des biens de l'usine. Deux groupes financiers étrangers s'intéressent à l'affaire, puis renoncent. Le ministre du Développement scientifique annonce l'étude d'un plan de redressement. Mise en liquidation décidée par le tribunal de commerce de Besançon qui met fin le 31 juillet à la poursuite de l'exploitation. Plan qui prévoit l'éclatement de l'IP en trois sociétés. Immédiatement, le personnel rejette ce plan.
Les ouvriers de l'entreprise, hier soir, et les cadres ce matin, ont très nettement rejeté le plan de M. Charbonnel. Vous risquez donc d'être très mal accueilli à votre arrivée à Besançon.
J'ai accepté cette mission pour des considérations d'ordre moral. L'essentiel, c'est que je ne me dérobe pas à ce qui m'a été demandé. Si les ouvriers estiment que ma mission ne peut pas se remplir, je serai en paix avec ma conscience.
Qu'allez-vous faire en arrivant sur place? Quelle va être votre première action?
Prendre contact avec les autorités responsables, avec le personnel, car j'aime bien le contact, et étudier le problème.
Et dans la mesure où le personnel ou les cadres ne vous permettent pas ce contact?
J'aurais fait preuve de ma bonne volonté, et j'aviserai.
Aux environs de 6 heures, les cadres sont arrivés pour ceinturer l'usine. Ils sont passés du côté du restaurant, de la cantine, et puis c'est à ce moment-là que les gars ont chargé, quoi, depuis la passerelle. Et puis les quelques gars qui étaient au gardiennage, là, ils ont juste eu le temps de déblayer ou de passer par-dessus la grille. Et ils ont commencé à lancer quelques coups de bâton, quoi. Et puis à ce moment-là, j'ai pris ma voiture et j'ai quadrillé la ville. Je suis descendu jusqu'à la rue des États pour prévenir les copains, quoi, de monter jusque chez l'île.
Est-ce qu'il y a eu vraiment des bagarres d'ailleurs?
Il y a eu des bagarres, il ne veut pas y avoir de grandes bagarres pour la bonne raison qu'on était une quinzaine, vingtaine de gardes. Mais les quelques gars, moi j'en ai vu un ou deux sauter dessus la balustrade et puis les gars, ils couraient après. Ça, je peux le certifier.
Donc pour vous, les gardes mobiles ont choisi le bon moment?
Ah, les choisi, oui, certainement, oui, puisque à cette heure-là, tout le monde est endormi et puis c'est là qu'il y avait le minimum de monde à l'usine, quoi. Puisque jusqu'à 1h ce matin, on était environ 300, 400, quoi.
Depuis hier matin, l'usine de Besançon est investie et occupée par les forces de police. Les réactions ont été nombreuses. En plein mois d'août, cette secousse sociale est ressentie tout à la fois comme un test, un cheval de bataille ou une épreuve difficile selon le côté où l'on se place.
La journée a été calme, mais comme hier soir, la tension monte en fin d'après-midi. Jet de pierre, grenades lacrymogènes et charges de policiers. Car la nuit dernière déjà avait été chaude autour de l'usine malgré le petit nombre de manifestants. Bilan, quelques blessés de part et d'autre et une cinquantaine d'arrestations. Selon la préfecture, il s'agit exclusivement de personnes étrangères à l'usine.
Et hier soir, quand tu étais dans la rue, tu as vu des gens de l'IP?
Ah, j'ai vu beaucoup de gens de l'IP, des gens de tous les âges de l'IP, oui.
Tous les soirs?
Tous les soirs, il y a beaucoup de gens de l'IP, beaucoup plus qu'on ne le dit. Il ne faut pas venir essayer de faire croire que les l'IP...
Ben, moi, je pense qu'on y est tous allés, voilà. Au moins une fois.
Alors?
Oui, mais ça, il a raison.
Eh bien, il y a une chose, quelquefois, les l'IP, on a tellement à faire de jour,
pourquoi...
on ne peut peut-être pas être de jour et de nuit. Quelquefois, on est obligé de se dire, je me rends ce soir, parce que demain, il y a du travail. Du travail à l'IP Janzé, hein. Alors, on ne peut pas être de jour puis de nuit. Mais ça veut pas dire que de cœur, on n'est pas avec toute la foule qui est là pour protester contre les flics. De toute façon, on est avec eux et on est fous.
Quels sont les journalistes qui l'ont dit?
J'en sais rien,
on
encore point de vue.
En Belgique?
Oui, mais il n'y a qu'en Belgique aussi.
Le Monde.
On n'est pas censuré, il n'y a pas de problème.
Oui, c'est vrai, la RTB ne censure pas comme chacun sait.
Qui êtes-vous?
Le soir, la moitié.
Ben alors, allez-y.
Je vous signale aussi qu'on nous a pris pour des provocateurs parce qu'on a une voiture noire. Mais enfin, c'est une voiture de presse, il n'y a pas écrit, il n'y a pas de nom de journal dessus, mais il y a des antennes de radio.
Vous allez discuter dans les commissions de journalistes qui sont là. Qu'est-ce que vous allez prendre comme position? Vous avez des journalistes. Ils continuent à mentir.
C'est pas à moi de prendre
alors, on
n'en
sait rien. On voudrait bien imposer justement que la presse soit libre en France.
Imposer.
Pourquoi ne dit-on pas que les CRS sont des provocateurs qui sont venus jeter des grenades offensives sur les cheminots,
oui,
qui étaient au dépôt? Pourquoi ne dit-on pas qu'à la cité Parc à Besançon, qui se trouve assez éloignée de l'usine LIP à Palante, on a jeté des grenades offensives? Pourquoi ne le dit-on jamais?
Et il y a eu des grenades lacrymogènes lancées dans des appartements, hein, lancées donc par les CRS, hein, qui ont éclaté dans les appartements. Et il y a eu, ces grenades ont même percé les volets. Alors voilà un peu ce qu'on lance sur soi-disant les dizaines de petits jeunes. Alors s'il y a vraiment que des dizaines de petits jeunes et que des milliers de flics leur lancent des gaz lacrymogènes, bah alors c'est encore plus honteux alors.
Combien de personnes il y avait hier soir dans la rue?
Oh, moi je dis au moins 3-4 000. Il y en avait partout dans toutes les villes d'Assas, il y en avait des quantités. Ouais,
les CRS,
de toute façon, un CRS n'a pas à dire. dire quoi que ce soit. Un CRS, c'est une machine à taper. Il n'a pas à penser et pas à prononcer des paroles.
Oui, c'est pas des hommes.
Je dis même une chose, en parlant de CRS encore. Les CRS, on devrait un jour protester que les CRS n'aient pas le droit de voter. C'est pas des hommes. Si c'est un gouvernement de droite qui leur dit de taper, ils tapent. Si c'est un gouvernement de gauche qui leur dit de taper, ils tapent. Donc ils ne pensent pas, donc ils ne réfléchissent pas. Ils ont tout renié, ils n'ont pas à voter. C'est pas des hommes.
Qu'est-ce que vous pensez de l'appel du maire à ne pas y aller?
Je me demande à quoi ça sert.
Je suis pas contente de l'appel du maire à ne pas y aller. Je suis en train de me demander si le maire est pas en train de se laisser doucement subir, qui subit des pressions par...
Le maire, il est bien embêté.
Voilà, je ne suis pas d'accord avec son appel à ne pas y aller. Il est ennuyé, on n'a rien contre le maire, c'est un maire sympathique, mais en ce qui concerne son appel à ne pas y aller...
Je ne pensais pas
que... de lit, pas y aller, vous.
Non, on n'invite personne à y aller.
On invite les gens à protester contre la présence.
On n'invite personne à y aller.
Voilà.
Les gens qui y vont, ils sont absolument volontaires.
Qui êtes-vous, monsieur?
Je suis un ouvrier de lit.
Et votre nom?
Pétola.
Et vous, madame?
Moi, je suis une ouvrière de lit aussi. Monique Piton.
C'est un ouvrier. Et je suis décidé à défendre mon bien. Mon bien, vous m'entendez?
Vous êtes ouvrier chez Lippe, vous?
Je suis ouvrier chez Lippe, oui, j'ai pas peur de le dire.
Comment vous appelez-vous?
Bigeon Bernard.
C'est pas la peine.
Si, c'est la peine. Si, c'est la peine. Je suis décidé à défendre mon bien.
Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous nommer, monsieur, je pense.
Parce
que,
pardon?
Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous nommer. Si parce que vous êtes nommé, vous avez des ennuis...
Je m'en fiche. Je m'en fiche. Au point où on en est, on est prêt à prendre ses responsabilités.
Et t'as fait d'autres copains avec toi?
Non, j'ai pas d'autres copains, je suis seul.
Non, mais d'autres copains, d'autres ouvriers qui étaient hier soir dans la rue.
J'étais dans ma maison, dans mon bâtiment, et les CRS se cachaient derrière ma voiture et provoquaient les jeunes qui étaient en face. Ils n'ont rien à foutre à se cacher derrière les voitures pour provoquer les gens en face. Ils n'ont rien à foutre dans les bâtiments, ils n'ont qu'à rester à l'intérieur de chez Lippe. S'ils défendent l'usine Lippe,
ils n'ont rien à foutre à l'intérieur de chez Lippe.
Non, dehors, laissez-les, dehors.
Ils n'ont rien à foutre là. Qu'ils aillent dans leur caserne, ou qu'ils aillent chez
nous. C'est pas pareil.
Et puis il paraît qu'il y en a qui sont morts, hein.
Mais c'est aussi bien.
Mais c'est aussi bien. Le malheur, c'est que quand on en tue un, c'est comme les sauterelles, ils en repoussent 10 000.
Avec soutien d'autres usines qui seraient prêtes, elles aussi, à prendre en main sur le plan ouvrier leur destin.
Quel genre vous
voulez? Pas à notre connaissance.
Je sais pas.
Il y en a qui ont essayé de vendre des pantalons, des trucs comme ça. Mais ça va venir, soyez sans
crainte. Ah, il y a eu cette usine à Lorient, les filles là, qui avaient 40 km de tissu, qui voulaient vendre leurs pantalons. On leur avait offert de vendre leurs pantalons sur Besançon, d'ailleurs, on est allé les voir. Hein. C'était il y a longtemps déjà, il y a plus d'un mois de ça. Hein. Il y a les usines de Romans, là. Oui. Mais je crois que non, devant l'affaire Lippe, ils ont un peu réglé cette histoire, quoi. Ça leur a...
L'affaire Lippe, c'est important parce que ça a prouvé, je ne pensais pas que cet exemple...
On a même été
rapidement
tous...
étendu.
On a même été tous épatés l'un de l'autre, on s'est découvert.
Des petits, il y a beaucoup de petits, voilà. Il y en a déjà qui sont en gestation, en Belgique.
Ça a été quelque chose de sensationnel, hein. De toute façon, le jour où on a remis en route l'usine, c'était à l'unanimité, c'était merveilleux. On en est encore parvenu, même maintenant, il y a une solidarité, on a une vie... Une vie merveilleuse, il faut reconnaître que c'est sensationnel en ce moment. On sent qu'on fait quelque chose, aussi pour tous les travailleurs de France, puis peut-être du monde, ça va plus loin. Alors, question de solidarité, je sais pas, on s'aime bien, vraiment, entre nous. On sent qu'on est au même combat, quoi, c'est formidable.
Après, qu'est-ce qui va se passer? Tu pourras retravailler comme avant?
Je sais pas.
Avec le travail.
Moi, j'ose pas y penser.
Je sais pas. Si nos cadres, si les 3e collèges avaient été un peu courageux, oui, on aurait pu retravailler comme avant, parce que
pas comme avant, peut-être pas dans les mêmes conditions.
Mais on aurait pu.
Pas comme avant, parce qu'on a découvert quelque chose.
Non, ça peut pas être.
Ben, une ambiance de travail absolument exaltante, quelque
chose. On peut pas être que des missionnaires, on peut travailler.
Je venais à l'usine, je dormais toute la journée, enfin je faisais ça parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et puis maintenant, quand il y a une demi-journée que je ne suis pas là, bah, je reviens. Samedi matin...
On aime travailler maintenant.
Samedi, j'avais pris la décision de ne pas venir. Puis alors, cette histoire de sabotage de la déclaration de Mercey. Alors, j'ai écouté la radio jusqu'à midi. Quand on a dit que les CGT, la délégation CGT n'était pas venue rejoindre M. Giraud au Frontel, j'ai fait ouf et je suis radiné à l'usine.
Oui, on ne peut pas s'empêcher.
Dis-moi, je voulais te demander, il me semble que...
J'ai essayé d'aller en vacances, pour vous dire. J'étais très fatiguée. Hein. J'ai essayé d'aller en vacances et je tiens bien à dire que pour une LIP qui est consciente de ce qui se passe ici, c'est pas possible d'être en vacances. Parce que j'avais des étiquettes LIP après ma voiture, les gens où je passais me questionnaient, me disaient « qu'est-ce qui se passe chez LIP, êtes-vous bien de chez LIP, etc. » C'était des mini-meetings un petit peu partout. Je suis allée dans un camping, des gens qui avaient vu que j'étais de chez LIP m'avaient parlé, ont organisé un apéritif un jour, il y avait un tas de tables de camping et tout ça, et ont organisé un apéritif pour que je leur parle de LIP. Il y avait une vingtaine de bonhommes avec les femmes, les gosses, ça a duré de midi jusqu'à 2h30, où on a parlé pratiquement que de LIP et de lutte ouvrière. Et en plus, j'ai cru pouvoir prendre quelques jours de repos, j'ai pas eu de repos, parce que j'écoutais la radio, je sentais, je savais, justement, j'en reviens là, que la radio ne dit pas la vérité, et j'étais très inquiète. La radio, la télé, j'étais inquiète de ce qui se passait chez LIP. Un jour, j'ai reçu mon LIP unité, mais évidemment, avec deux jours de retard, puisque le temps que le courrier suive, ça ne me suffisait pas, et je suis revenue, parce que je pouvais pas. J'étais partie, je suis partie moins de 10 jours, et dans mon esprit, au départ, je me disais, je suis fatiguée, après tout, je vais prendre un mois, il se passe rien à cette époque-là. J'étais partie le 21 juillet, je me dis, du 21 juillet au 15 août, il se passera peut-être rien, c'est la bonne époque pour aller un peu se reposer. Mais j'ai pas pu me reposer parce que j'étais inquiète de ce qui se passait à LIP. Je suis pas la seule, hein, je veux pas dire moi, on est tous comme ça.
Que tu es une de celles qu'on voit le plus souvent, j'aimerais savoir combien tu as d'amis qui participent aussi activement que toi.
Je ne contrôle pas, mais les femmes, j'ai des copines. Ouais. Eh ben, les femmes, c'est, justement, on n'en parle pas assez. On dit toujours les travailleurs. Moi, j'aimerais bien qu'on dise à chaque fois les travailleurs et les travailleuses. Parce que chez LIP, je crois qu'il y a à peu près 800 femmes, 400 hommes et 100 cadres. Je les compte à part. Hein. Bon, alors, je crois qu'avec 800 femmes, si la lutte marche comme ça, c'est tout de même beaucoup aussi à cause des femmes. On a Piaget, bien sûr, qui est l'âme de la lutte, comme on se plaît à le nommer, effectivement, qui est un homme. Mais les femmes participent dans toutes les commissions, les femmes font un très gros travail. Les meetings, les femmes prennent la parole, les femmes organisent, les femmes, je sais pas, il y a des lettres ou des tracts à taper, c'est souvent les femmes, donc elles participent, et non pas en obéissant en mouton, mais parce qu'elles y croient et parce qu'elles veulent faire quelque chose, elles ont leur mot à dire, c'est essentiel.
Et dans la vie quotidienne, comment vous êtes organisée pour pouvoir être disponible avec les enfants et tout ça?
Eh bien, moi je n'ai pas d'enfants, mais je me demande comment font celles qui ont des enfants, elles doivent se faire aider, parce que chez moi c'est épouvantable en ce moment. Il y a du bazar partout. Avant, j'étais une femme très organisée, très soignée. Et j'aimerais qu'on voit l'appartement, il est dévasté. On ne peut pas faire autrement. Il y a des journaux partout, des tracts partout. On essaye de classer, on n'a pas le temps. On court, on suit, on vient là. On n'a pas le temps de finir les vaisselles. On se lave un chemisier en vitesse, une robe pour pouvoir remettre le lendemain. Je suis jamais à jour, quoi.
Mais les autres aussi. Il y a plusieurs, vous avez critiqué très fort et la radio et la télévision qui donnaient une information que vous estimiez fausse.
Oui.
Bon, dans quel but cette information est-elle fausse selon vous?
Déjà, tout au long de la lutte, on a remarqué que la télévision tronquait les déclarations des ouvriers.
Pourquoi?
Je ne sais pas que vous dire, par exemple, pour faire croire à autre chose, voilà.
Dans quel intérêt?
Eh bien, pour minimiser peut-être, et déjà au début, par exemple, je vous donne un petit exemple. Un jour, il y avait une fille qui a été questionnée et qui disait, on lui posait la question, êtes-vous fatiguée? Alors elle a répondu, oh oui, ça commence à faire, mais pour une lutte pareille, je crois que ça vaut la peine. Voilà ce qu'elle a dit. Et à la télévision, on a fait passer, oh oui, ça commence à faire, terminé.
Oui, oui.
Alors ça veut dire quoi? Qu'elle était découragée? C'est pas vrai, cette fille n'est pas découragée, elle est toujours là. Oui. C'est une fille très courageuse, on la voit partout, elle va dans les voyages, elle a travaillé pour le Larzac, c'est une fille sensationnelle. Et on a fait passer à la télévision un truc, oh oui, il y en a marre. Eh bien non, il n'y en avait pas marre.
La fatigue.
Elle n'a pas marre de la lutte.
La fatigue, oui, mais le découragement,
oui.
Jamais.
Voilà, exactement. Elle était peut-être fatiguée ce jour-là, mais elle a bien dit, mais ça vaut la peine. Et ça, on ne l'a pas fait passer, cette phrase-là. Et ça, c'est une petite chose parmi tant d'autres. On tronque, on coupe les phrases, et ça ne ressemble plus à ce que ça veut dire. Voilà. Alors déjà ça, on essaye de minimiser, de nous faire croire qu'on est fatigué. Voilà, 3 mois qu'on essaye de nous faire croire qu'on est fatigué. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on a l'air fatigué?
Vous avez l'air en pleine forme.
Ben, on y est tous. Peut-être qu'on vit sur nos nerfs, mais on peut tenir encore très longtemps. Puis on sait se dégager de temps en temps, une journée, deux journées, parce qu'il y a les autres qui sont là, et on travaille par roulement, de façon à revenir.
Ce soir aussi, c'est peut-être un moyen de se recharger.
Oui, oui, il y a la fête ce soir, mais la fête, je crois qu'elle va être parfumée au gaz lacrymogène. Hein.
Parce que vous avez invité les CRS,
hein? Ah ben, ils viendront.
De toute façon, ils embaument tout le quartier, alors on se mettra des mouchoirs mouillés sur la figure, et puis on continuera.
On croit qu'ils...
on pense qu'ils chargeront ce soir et puis qu'ils arriveront ici probablement.
Moi j'ai invité du monde, des amis, de la famille pour venir à la fête.
Vous avez évoqué tout à l'heure le changement d'organisation de votre vie. Vous dites maintenant, il se fait que vous êtes toujours en retard dans votre ménage, etc. Ça a quoi comme importance?
Je sais pas, c'est une nouvelle vie quoi. Moi ça, de temps en temps, je prends la minute de réfléchir puis je me dis, dire que j'aurais jamais supporté ça avant, mais maintenant ça n'a pas d'importance.
Moi j'aimerais te demander aussi si les contacts entre vous, tu vois, entre l'ouvrière du même atelier ou d'ateliers différents, c'est resserré. Si vous allez continuer à vous voir après la grève, à vous revoir, à vous organiser pour les enfants, pour les gardes, pour tout ça.
De toute façon, il y a des relations nouvelles, oui.
Vous voyez pas tellement en dehors des ateliers.
Les gens ont sympathisé, des gens qui ne se connaissaient pas justement parce qu'ils étaient bloqués sur une machine dans un atelier où ils ne pouvaient pas en sortir. Ils allaient manger avec ceux de leur atelier et le soir ils sortent, ils se précipitent dans les autobus ou dans leur voiture et ils partent. Alors il n'y avait pas de contact, mais dès le début des organisations, des commissions, il n'y avait plus de techniciens, de balayeurs, de dames qui font les paquets ou de secrétaires. C'était tous la même chose. Et puis...
Vous avez tourné pendant la grève, hein ? Vous avez changé de machine, vous avez...
Oui, puis chacun a fait ce qu'il avait envie de faire. Il y avait des filles qui étaient bloquées sur une machine qui faisait des petits trous à longueur d'année, qui sont devenues standardistes puis qui le faisaient parfaitement bien. J'en revenais pas, moi j'étais contente. Je me disais, tiens, celle-là, elle avait l'air... je la trouvais, je sais pas, un peu... Non, j'ai pas essayé de mes aiguilles. J'ai eu beaucoup de choses à faire aussi, moi, des choses que j'avais envie de faire. Des contacts avec les journalistes, des voyages, des discussions. Avant, j'avais jamais rien à discuter. Je travaille dans un service de recherche, c'est toujours très calme, on ne discute pas, là. On écrit, on trie, on classe des tas de choses, quoi, de techniques. Je me demande jusqu'à quel point on n'était pas quand même des petits bourgeois à l'esprit étroit. Hein. C'est encore possible. Finalement, peu à peu... Et moi, je vois, par exemple, j'aurais pas reçu n'importe qui chez moi avant. J'étais pas bêcheuse, mais un peu comme ça, un peu méfiante. Puis maintenant, il y a des gars, des filles qui couchent chez moi, ils en passent, des amis à eux qui prennent un casse-croûte là, qui s'en vont. J'ai totalement confiance.
Bon, cette vie nouvelle, tant dans le travail que dans la vie personnelle, est-ce que vous êtes disposé à y renoncer si l'entreprise reprend sur ses anciennes bases?
Non, moi, je sais pas comment dire, j'avais l'impression, souvent, je suis pas la seule, on avait l'impression quand même d'une petite vie monotone, la petite ville de province où il n'y a rien à faire le soir, c'était un peu, comment on appelle ça, boulot dodo, quoi, enfin, je sais plus, métro boulot dodo, mais c'était pas métro, mais c'est pareil. Et puis, non, on a découvert de nouveaux horizons, de toute façon, il y a des tas de choses à s'occuper, moi, je pense par exemple aux immigrés, j'en avais conscience, mais... Je voyais qu'ils avaient des difficultés, mais je ne les comprenais pas. Eh bien, j'ai appris à comprendre leurs problèmes davantage.
Ils sont venus parler. Comment tu étais en contact avec eux?
Moi, j'ai parlé avec des immigrés.
Non, mais est-ce que ça vous a aidé à mieux vous connaître vous-même aussi?
Oui.
On n'a pas le temps.
Est-ce que c'est possible?
Oui, on n'a pas le temps de s'analyser. Je crois qu'on aurait besoin d'un temps.
On n'a même pas le temps de penser à l'avenir.
Voilà. On voudrait même écrire au fur et à mesure ce qui se passe tous les jours et on n'a pas le temps. Moi, je le regrette parce que si un jour on réécrit quelque chose là-dessus, ça risque de ne pas être aussi frais, aussi spontané. Les souvenirs ne sont quand même pas comme ce qu'on peut écrire tous les jours. Il faudrait qu'on prenne le temps.
Est-ce que ça vous est possible de recommencer de travailler comme avant avec les contremaîtres tels qu'ils sont faits et les cadres tels qu'ils ne se sont pas mis en grève?
Et le ménage à faire sans poussière?
Alors, attends, je réponds à une question avant. Travailler comme avant, oui, on retravaillera. Moi, je jamais assez mon travail, et puis... Mais, enfin, je ne me suis jamais trop laissé marcher dessus, quand même. Hein. Je n'ai déjà pas le tempérament à me laisser tout dire, tout faire, mais...
Mais en groupe.
Ah ben, travailler en groupe?
Non, en groupe, se laisser faire. Est-ce encore possible?
De toute façon, chez Elip, je crois qu'on se laissera pas bien. Hein. On travaillera parce qu'on aime notre travail, notre métier, et puis parce qu'on sait bien qu'il faut travailler pour vivre. Il n'y a, pas de miracle. Si on veut gagner de l'argent, il faut quand même qu'on fournisse un certain travail. Mais il ne faudra pas de brimade. Hein. Je crois qu'on ne supportera aucune brimade. Hein.
Alors, est-ce que, sachant ça ou le prévoyant, les patrons ne vont pas essayer de vous disperser? Est-ce que pour eux, le démantèlement ne devient pas vital?
C'est ce qu'ils essayent de faire, mais on ne l'acceptera pas. Ça, c'est... On le comprend trop bien. On ne comprend même plus que Charbonnet, après des mois, continue à parler de 3-4 sociétés. Ça n'a pas de sens. Il n'a rien compris.
Bien, trop bien.
Je sais pas, j'ai l'impression qu'il ferait bien de venir un petit peu ici, puis de vivre parmi nous incognito quelques jours, puis peut-être qu'il comprendrait.
Est-ce qu'il en est capable?
Non. De toute façon, non, mais il n'a qu'à se mettre une barbiche, des lunettes noires, on ne sait jamais.